Vous écoutez Le Maquis, le podcast de l'Amicale des étudiants caribéens, africains et sympathisants, connu sous le nom de l'AMECAS. Nous sommes une association étudiante panafricaine affiliée à l'Université de Paris 1 Panthéon-Sorbonne. En parallèle, en tant que think tank, nous analysons les enjeux géopolitiques, économiques et socioculturels de l'Afrique subsaharienne et des mondes africains à travers la rédaction d'articles, l'organisation de conférences ou encore la production de podcasts. Si vous avez une sensibilité pour le panafricanisme, que vous portez un intérêt pour les questions d'économie, de politique, de sécurité, de genre, de culture, de société en Afrique subsaharienne et dans les mondes afrodescendants, que vous soyez étudiant, étudiante ou jeune professionnel, n'hésitez pas à rejoindre notre équipe. N'hésitez pas à lire nos articles, à regarder nos vidéos, à écouter nos podcasts, à tout simplement suivre notre actualité. Je vous souhaite une très bonne écoute.
D'abord, je vous remercie d'être présente et présent pour la conférence d'aujourd'hui. Je remercie l'AMECAS Charles et Clotilde, c'est ça, de la présentation. Et je ne pense pas que nous soyons ici réunis aujourd'hui pour entendre parler de moi. Donc, si vous permettez, on va zapper cette séquence.
Un peu quand même, on veut savoir.
Hein?
Un peu quand même, on veut savoir un peu.
Je pense que c'est tellement simple, si vous voulez, de cliquer « Je marie Théodate » aujourd'hui et de savoir qui je suis, que pour aller très vite, si vous voulez, parce que vraiment, on est là pour parler de Vertière. C'est le centre de notre intérêt. Et donc moi je suis géographe, né à Port-au-Prince et ayant fait mes études de géographie à Paris, à l'université Paris 4 d'abord, puis j'ai fait un doctorat en géographie à l'université Paris 10 Nanterre, et depuis 1998 je suis maître de conférences en géographie à l'université Paris 1 au département de géographie. Je suis titulaire d'un doctorat en géographie sur Haïti, la République dominicaine, une île pour deux, et je suis également agrégé de géographie. J'enseigne depuis 1998 à l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, mais aussi en tant que professeur invité à l'Université d'État d'Haïti, en particulier à l'École normale supérieure de Port-au-Prince, où j'ai entre autres, avec d'autres collègues, notamment de l'Université Paris 8, auquel il faudra toujours rendre hommage, je pense notamment à la professeure Bézoudej Tambou et au professeur Alphonse Yalpidiaou, au professeur Olivier Archambault, qui ont fait un énorme travail depuis 2010 en particulier pour rendre la géographie beaucoup plus active, beaucoup plus vivante dans ce pays. Depuis 2017, très exactement, nous sommes avec d'autres collègues de l'université de Lens et de l'université de Mons en Belgique, mais aussi de l'université de Genève, en convention autour d'un programme de recherche, un master en urbanisme résilient, afin précisément d'apporter, on va dire, une réponse haïtienne aux défis qui se pose à Haïti. C'est pour ça que je passe pendant cette petite causerie donc des images de Port-au-Prince. C'est non seulement la ville natale, mais c'est aussi, on va dire, le site, le lieu justement de la concrétisation, j'ai envie de dire, de l'élaboration de tout ce parcours que nous allons essayer de refaire ensemble pour parler donc de Haïti. Je vais commencer par commenter l'image pour que vous soyez situé, si vous voulez, avec moi, une façon de dire aussi d'où je vous parle et concrètement d'où je suis né. Ici vous avez une image donc de Port-au-Prince prise d'avion. D'hélicoptère, très exactement, avec une vue plongeante vers le sud-est, vers le sud-ouest, pardon, avec si vous suivez mon curseur, ici, la place du Champ de Mars, avec la pelouse juste derrière, se trouvait, ne se trouve plus, le palais national, d'accord ? Et ici, l'ancien palais des ministères, effondré pendant le tremblement de terre, c'est-à-dire que partout où vous avez un espace soit en grisé, soit un peu trop vert, vous pouvez considérer ça sur le plan humanistique comme une dent creuse, c'est-à-dire ce qui reste en creux par rapport aux effondrements de 2010. Le palais, on va dire, c'est-à-dire le centre des impôts en construction, encore à l'époque, un petit peu, en zoomant un tout petit peu, on pourrait voir peut-être la statue du marron inconnu, mais non, je pense que je ne suis pas dans la bonne direction. Elle serait, si vous voulez, un petit peu plus vers ici, vers nous, vers le nord. Et là, donc, la place du bicentenaire et ce qu'il en est devenu, ce qu'il en est resté, on va dire, depuis le tremblement de terre. Et ici, ce qu'on pourrait appeler le cardo initial que vous pouvez deviner, c'est-à-dire l'avenue Jean-Jacques Dessalines qui traverse l'agglomération de Port-au-Prince du nord au sud, donc du nord au sud, avec vers le sud-ouest justement le début des faubourgs de Martissant dont on parle beaucoup en ce moment. Quand on dit Haïti, on pense à quoi ? Alors, Charles a eu la gentillesse de m'envoyer un... Comment on va appeler ça ?
Un plan.
Un plan. C'est la première fois de ma vie que je fais une conférence, non seulement sur commande, mais surtout avec un plan pré-rédigé. Au début, j'ai trouvé ça un peu gênant, mais après, je me suis dit, mais c'est de bonne guerre. D'abord parce que nous avons parlé de Vertière, mais aussi parce que je pense que le savoir est un construit collectif. C'est dans un dialogue. Donc, je me suis dit, voilà les attentes d'un jeune étudiant en sciences politiques, brillant.
Oh.
J'ai pu échanger avec vous. Je me suis dit, mais, si vous voulez, c'est comme vous rendre chez un cordonnier et lui demander de vous tailler un costume. Donc, je ne vais pas me défausser, c'est-à-dire répondre à vos attentes, mais dans le même temps, parler du point de vue quand même du métier. Je parle pas au prince, mais je suis géographe, je ne suis ni cordonnier, ni marin. D'accord ? Donc, sans éluder vos questions, je vais quand même les lire pour que l'assistance soit témoin, que je ne fais pas un pas de côté. Donc, le titre de la conférence, c'était « La situation à Saint-Domingue avant 1789, aspect géopolitique, le système esclavagiste ». Deuxième partie, la révolution haïtienne, en partant de la cérémonie du bois caïman, une galerie de figures que vous voudriez être, avec lesquelles vous voudriez être plus familier, Jean-François Papillon, Georges Biassou, Jean-Jacques Dessalines, François Capois, devenu Capois la mort, Henri-Christophe, Alexandre Pétion, c'est-à-dire, en fait, les précurseurs et les héros de l'indépendance haïtienne. Pardon ? On pourrait dire Cécile Fatiman, on pourrait dire Sami Belair, on pourrait dire Suzanne Louverture, et tant d'autres, bien entendu. Mais laissons-le déployer, on va dire, sa commande.
C'est prévu dans la conférence.
Mais ne vous inquiétez pas, on va y venir précisément. La bataille de Vertière, je rappelle que nous sommes aujourd'hui le 19 novembre, c'est-à-dire... Hier, c'était le 219e anniversaire de la bataille de Vertière. La conférence n'a pas pu se faire à la date convenue parce que j'étais retenu pour une autre conférence à Lille. Mais on va dire que quand on est haïtien, c'est tous les jours Vertière. Donc, il n'y a pas de problème à le faire aujourd'hui. Enfin, vous m'avez demandé de parler d'Haïti aujourd'hui. En gros, quel avenir ? Alors, j'ai mis tout cela, si vous voulez, en perspective. C'est pour ça aussi que je viens avec le petit carnet. J'aurais pu vous projeter ce qu'on appelle aujourd'hui un PowerPoint avec un savoir, je dirais, déjà tout cuit. Et Moi, le défi, justement, que vous m'avez lancé, c'est comment construire, dans le dialogue, en fait, un travail commun, un savoir partagé. Et c'est donc pour cela que je préfère venir ici avec mes notes brutes de découvrage. Et il se peut que parfois je me mêle un peu les pinceaux. Et c'est normal, c'est pour vous dire que le savoir n'est jamais une science infuse qui percole à travers une baie vitrée, mais toujours dans le dialogue. Exactement. Et il arrive que dans la discussion, moi en tout cas, j'ai cette humilité-là de changer la vie par rapport à une idée de départ. Il n'y a que les imbéciles qui ne changent pas la vie. Et je pense que, pour paraphraser Franon, il y a bien trop d'imbéciles dans le monde pour ajouter l'ombre. Donc il est temps, justement, d'ouvrir un peu les fenêtres et d'essayer de comprendre les choses. Haïti et nous. C'est le titre, on va dire, retenu pour faire cette synthèse et que je considère, en quelque sorte, comme le dialogue avec Charles. Et vous êtes témoin et témoigne de ce dialogue. Pour faire une courte trajectoire de plus de 200 ans, Haïti c'est 219 ans d'histoire aujourd'hui, nous passons d'une situation d'un territoire que l'on considérait comme la perle des Antilles, au début, on va dire, de, si on veut prendre non pas la période coloniale, mais déjà la période précolombienne. Lorsque Christophe Colomb arrive dans cette île, il la décrit comme une pure merveille, un pur paradis. Et les quelques bribes qui nous restent de la poésie d'Anacaona, la poétesse reine du Yaguana, une province de la période de Taïno, montrent que c'était un peuple d'une culture raffinée, un peuple, on peut même dire, d'une haute civilisation, parce que elle-même, ce peuple lui-même, porteur, en fait, d'une mémoire déjà enracinée en Amérique du Sud. Il ne faut pas vous imaginer les choses selon une iconographie, je ne pourrais même dire coloniale, parce que ça apparaît aujourd'hui d'une table tarte à la crème. Excusez-moi, on va se mettre sur avion. Ce sera toujours plus confidentiel. Un peuple à la culture raffinée et qui, malheureusement, n'a pas résisté au choc de la découverte. On y reviendra plus tard. Et 500 ans plus tard, plus de 500 ans, depuis 1492 en fait, quand on considère le même territoire, pris dans son intégralité, toute l'île, on constate deux choses. D'abord, que cette île n'est plus politiquement unie, mais séparée en deux par une frontière, qui la coupe de façon transversale, avec d'un côté la République dominicaine, un territoire qui caracole en tête des taux de croissance de l'Amérique latine. On parle souvent du dragon de la Caraïbe, avec une économie qui est aujourd'hui équivalente à celle de l'Uruguay, pour tout vous dire. Il y a un rapport de 1 à 9 entre le produit national brut de la République dominicaine et celui de Haïti, qui, dans le même temps, au contraire, se caractérise par un effondrement à la fois institutionnel, environnemental, politique, économique. Ne reste que la culture pour signaler encore la présence d'Haïti, et on a ce paradoxe que plus ça va mal, plus justement la culture haïtienne semble bien se porter dans le monde. Nous avons failli emporter le Goncourt la semaine dernière. C'est-à-dire que les artistes, les créateurs haïtiens, ce n'est pas, on va dire, ce n'est pas de l'anecdote. Entre ces deux va dire, constat, ces deux roches du feu, justement, on tire une problématique pour dire, mais comment? Comment se fait-ce? Comment est-on passé, justement, de cette situation de perte des Antilles, avec, pendant la période coloniale, l'une des économies les plus florissantes qui soit, à l'apogée de la colonisation française, la colonie française de Saint-Domingue rapportait 25% du trésor de l'État, en étant à peine un 1/20 de son territoire, de façon générale. Et ça, c'est le travail des esclaves. Plus de 400 000 esclaves travaillant pour des plantations de canne, de café, de coton, de cacao. Aujourd'hui, c'est 500 ans plus tard, 201 après l'indépendance, Haïti, c'est 27 750 km², une population de 11 millions d'habitants, dont plus de la moitié est âgée aujourd'hui de moins de 25 ans. C'est-à-dire 55% de la population haïtienne est née après 1997. Ils n'ont pas connu Duvalier et ont à peine connu l'épisode Aristide. 1997. Un pays où plus de 65% de la population vit avec moins de 2 euros par jour, c'est-à-dire sous le seuil absolu de pauvreté. En Haïti, dans le milieu rural, 38% de la population n'a pas accès à des latrines. En Amérique latine, c'est 4% en moyenne. Haïti est le seul pays de toute l'Amérique latine considéré comme l'un des pays les moins avancés, c'est-à-dire qui se retrouve pratiquement en marge de la répartition de ce qu'on appelle les investissements directs de l'étranger, parce que le pays est considéré comme non solvable. Donc la question que je me pose avec vous, c'est de savoir de quoi Haïti est-elle ou est-il? Moi, j'ai tendance à dire une Haïti. C'est comme ça que j'ai appris à l'école. Et ça paraît plus doux. Une Haïti. Donc, de quoi Haïti est-elle le nom? À la fois le nom, N-O-M, mais de quoi Haïti est-elle surtout le nom? Nom, N-O-N. De quoi Haïti est-elle précisément l'expression d'une opposition de principe? Et c'est en ce sens que la question Haïti et nous, ce n'est pas Haïti et moi, ce n'est pas Haïti et les Haïtiens, ce n'est pas Haïti et les Rastaquois, c'est Haïti et nous qui sommes ici présents, Haïti et notre époque. Et ce que je dirais, pour cadrer le discours, c'est que ce pays apparaît dans l'histoire comme, je dirais, la boussole qui nous permet de prendre, je dirais, la direction du monde. Haïti donne le ton de l'évolution, non seulement locale, régionale, mais aussi planétaire. Et c'est en ce sens que ce qui se passe en Haïti nous touche humainement, mais nous concerne intellectuellement. Parce que qui s'intéresse au monde ne peut pas justement prendre ce pays à la légère. Haïti, c'est un état du monde. Quand nous faisons un état des lieux d'Haïti, de façon indirecte, nous faisons un état des lieux du monde, c'est-à-dire de l'état de l'avancement des grands débats, des grandes idées. Et lorsque vous m'avez demandé, dans l'intitulé donc de dire Haïti, la première révolution africaine. J'ai hésité parce que je me suis dit que dire première révolution africaine, ça risque de donner à cette dynamique une dimension trop régionale. C'est une révolution universelle en fait. Alors si vous dites maintenant première révolution africaine à portée universelle, je dis, ok, ouais. Africaine, pourquoi? Parce qu'à l'époque, plus de la moitié de la population révoltés, les esclaves, sont des bossals.
Exactement.
Bossal veut dire esclave né en Afrique. Mmh. Comme le sont Jean-François Papillon, comme le sont Georges Biassou,
Boukman,
comme l'est bien entendu Dudi Boukman, mmh, et tant d'autres. En fait, plus de la moitié de la population est alors née en Afrique. Et pourquoi ? Parce que, on aura l'occasion d'y revenir, le régime de travail dans les plantations est tellement rude, il met tellement à l'épreuve la santé, que le taux de mortalité parmi les esclaves est effroyablement élevé. Donc il faut en fait sans cesse renouveler les stocks. Et c'est de là que vient la métaphore du bois d'émail, c'est-à-dire c'est en fait du bois de cheminée, c'est du bois brûlé. Et on brûle littéralement le bois d'ébène dans les plantations, dans le four à cuisson. Il faut faire cuire le sirop de canne pour le transformer en sucre cristallisé. Comment sommes-nous passés justement d'un extrême à l'autre? C'est ce que je vais essayer de voir avec vous aujourd'hui en vous proposant un petit plan. Ça, j'aurais pu l'exposer. Mais je préfère vraiment vous mettre avec moi la main dans le cambouis. Et il y a une certaine paresse aussi à regarder un plan sur le tableau. Ok. Pour moi, c'est comme commander son plat par Internet et la pizza vous arrive, elle est déjà froide. Moi, some like it hot. Moi, je l'aime chaud et je vais vous le servir tout chaud aussi. J'invoquerai d'abord avec vous la colonisation pour planter le décor, parce que tout le monde ne connaît pas forcément le détail de l'histoire d'Haïti. On dit qu'Haïti fait partie de notre histoire universelle, mais pas de notre mémoire. La plupart ignorent. J'ai fait une petite enquête dans mes cours l'année dernière pour savoir quel nom d'haïtien célèbre qui mérite et qui méritait d'être connu, qui était connu des étudiants, absolument aucun, sauf Barbecue. C'est-à-dire Jimmy Chérizier, qui est actuellement le chef de gang le plus sanguinaire de Port-au-Prince, et qu'il suffit d'un clic sur Google pour obtenir son nom qui apparaisse. Mais ni Toussaint Louverture, ni Jean-Jacques Dessalines, ni même Dany Laferrière, pourtant présent à l'Académie française, n'étaient connus des étudiants. Alors, quant à leur parler de Vertière, quant à leur parler de l'indépendance de 1804, c'est comme leur parler de la Lune. Alors que Haïti fait partie, justement, de cette histoire, pas seulement de l'histoire de la France, mais d'une histoire universelle, parce que, comme vous allez le voir, la portée de cette révolution ne se limite pas à Haïti. Et lorsque nous parlons de ce pays et que nous élevons la voix, c'est justement, comme on dit en créole, c'est pour l'inintendé. C'est pour qu'on sache que justement, ce qui s'est passé ici n'est pas un événement banal, parce que ça a eu des résonances, et cela a encore une prégnance forte dans l'histoire contemporaine. Tous les grands révolutionnaires le savent. De Marx à Fidel Castro, en passant par Mao, connaissent l'histoire d'Haïti, j'ai envie de dire, par cœur. Et je me souviens encore de la première fois que j'ai mis les pieds à Cuba et que j'avais assigné à mon service un guide touristique qui était, on va dire, un jeune étudiant de je ne sais plus quelle faculté. Il avait une connaissance de l'histoire d'Haïti que je ne suis pas sûr de trouver chez mes étudiants de l'école normale supérieure les plus cultivé. C'est dire que c'est un pays à prendre à la loupe et non pas le shithole que l'autre abruti a voulu voir dans un épisode d'agressivité verbale. Donc, dans un premier temps, j'évoquerai la période coloniale. Dans une deuxième partie, la nation haïtienne. Dans une troisième partie, le défi haïtien, c'est-à-dire la deuxième et la troisième partie. Jusque-là, on va dire que c'est un plan chronologique. Je ne vais pas vous assommer avec des dates, d'accord, mais on pourra toujours préciser ça s'il y a des questions. Et le défi haïtien, avec une conclusion sur ce que j'appelle justement Haïti, un trou noir dans la Caraïbe, un trou noir au sens cosmique. Imaginez ici un grand vortex inverse qui serait tellement puissant que toute forme de lumière, toute énergie y serait aspirée. Haïti aujourd'hui, c'est ça dans la Caraïbe, et c'est pour cela que justement, aujourd'hui, je suis là pour en parler, parce que sinon, je serais là-bas. Donc, tout d'abord, la colonisation. C'est un élément important pour comprendre la géographie, mais également la politique haïtienne, et aussi pour comprendre, je dirais, cette dimension universelle. Pour dire que lorsque Christophe Colomb arrive dans l'île qui ne s'appelle pas encore Espagnola, mais Haïti, mais on hésite à savoir si c'est Haïti, si c'est Quisqueya ou Boyo, parce qu'en fait, la langue originelle a disparu corps et bien avec les premiers locuteurs, c'est-à-dire la population Taïno, venue justement du delta de l'Orénoque et qui, par saut de bouton d'île en île, ont occupé les Antilles de Trinidad jusqu'à Cuba, à partir du début de l'ère chrétienne. Donc, une population qui avait mis, en fait, une culture originale qui combinait à la fois des influences de l'Amérique du Sud et des influences de l'Amérique du Nord par la presqu'île de Floride. Tout le monde a une carte dans la tête. Ou est-ce que je suis en train de faire des gestes de magicien, hein? Donc, vous imaginez l'Amérique du Sud. Je pourrais peut-être projeter une carte du territoire, ce serait pas mal. On va être géographe jusqu'au bout. Alors, on va aller sur Google Maps. Ah mais oui, il faut que je sois connecté. Attendez, ça va. Je n'aime pas cet amour-là. Non, c'est pas bon. Trop tard. On aurait dû le faire avant. Je ne sais plus où j'en étais. Là. Sinon, ça va me couper la chic. Une colonisation qui surprend, on va dire, une population installée depuis, on va dire, à peu près un millénaire sur ce territoire et qui combine des influences, je disais donc, du nord et du sud. Les Taïnos n'étaient pas ce peuple doux et pacifique dont on parle l'historiographie coloniale. On va dire que lorsque Christophe Colomb a cru voir des indigènes, des sauvages perturlurés en train de faire une danse de bienvenue, en fait, c'était une danse de guerre. Une danse de guerrier. Absolument pas une cérémonie de bienvenue. Et la brutalité qui s'ensuit, si vous voulez, est beaucoup plus marquante dans l'histoire qu'un quelconque malentendu possible, effectivement, sur le premier témoin de l'arrivée de la première caravelle. Mais si les Indiens, comme on les appelait de façon erronée, c'est-à-dire en fait, si les Taïnos s'étaient trompés sur les intentions des Espagnols, c'était de bonne foi. Mais ils ont très vite déchanté. Parce que à peine un demi-siècle après l'arrivée des colons, et de colons, l'essentiel de la population va disparaître. À cause d'abord d'un choc microbien, cette population qui a vécu isolée pendant plus de 50 000 ans. C'est ça, l'échelle de l'isolement géographique de cette population. D'accord ? N'a pas les anticorps contre la grippe, contre la variole, contre la syphilis, contre la tuberculose et tant d'autres maladies apportées par les Européens. Ce qui fait que, ajouté à cela, la décision prise par les colons espagnols de répartir à la fois les hommes et la terre aux conquistadors au titre de tribus, de droits de conquête, c'est le début
de ce qu'on appelle la première tabula rasa, c'est-à-dire le premier génocide historiquement constaté de l'époque moderne, parce que de Cuba jusqu'à Trinidad, toute la population taïno a disparu. Il n'existe plus de culture originelle dans l'archipel des Antilles, à part quelques bribes de population qu'on trouve à Saint-Vincent, un petit peu aussi dans l'est de Cuba. On voit qu'il y a effectivement des traces, on va dire, de présence taïno, mais culturellement, c'est la table rase. Cette table rase a une prégnance dans l'histoire. Je reviens ici à la définition brodélienne de la temporalité. Brodel dit que, dans le même temps qu'un passé ancien semble avancer vers nous à pas très lent, à peine perceptible, un passé plus récent, qui relève, on va dire, de l'heure, du jour ou de la semaine, semble avancer vers nous à pas saccadés. C'est-à-dire, si nous faisons le bilan des... Bon, maintenant, c'est un petit peu moins vrai, parce que le monde a tellement changé sur les 50 dernières années qu'à un pas de temps de 1000 ans, on a l'impression que le monde s'est bouleversé. Mais en fait, en 1000 ans, fondamentalement, si vous lisez la littérature, si vous lisez les œuvres, et si vous regardez ce qui se fait en termes de pensée de l'époque, nous n'avons pas avancé de iota. La carte du monde, pour rester dans la géographie, la carte de la répartition des grandes masses de la population, à part la nouveauté du Nouveau Monde, à part les Amériques, elle n'a pas changé d'un poil. Les vides sont restés des vides, les pleins se sont davantage remplis, mais pas de bouleversement fondamental dans la répartition des hommes, pas de bouleversement fondamental dans notre connaissance, on va dire, de l'intime. Pas de bouleversement fondamental dans les relations entre les hommes. Tandis que, si nous essayons d'évaluer les évolutions qui se sont faites sur les 10 derniers jours, nous avons l'impression que la machine s'est emballée. Tous les jours, vous avez une actualité plus ou moins catastrophique qui vous montre que, oulala, c'est ça, le paradoxe de la temporalité brodélienne. Pour dire que, dans un instant T, hein, vous avez des éléments qui relèvent d'une temporalité plus longue, d'une temporalité moyenne et d'une temporalité plus courte qui impactent l'instant de la discussion. Eh bien, cette tabula rasa continue dans la longue durée de peser sur le territoire des Antilles, au sens que il y a un sentiment d'illégitimité partagé par tous les nouveaux habitants. Donc là, mon proverbe qui dit « Nous pas vinicit, nous pas monicit, c'est passé n'a passé. » En clair, nous ne sommes pas d'ici, nous ne sommes que des passagers. Ce qui est une métaphore globale pour dire que nous sommes tous mortels. Les Haïtiens sont grandiloquents, très grandiloquents. On aime bien, si vous voulez, les grosses images. Mais concrètement, ça veut dire aussi que nous ne sommes pas d'ici. Il y a dans la conscience collective haïtienne le souvenir de l'arrachement par rapport à l'Afrique. Nous, c'est nègre guinéen. Nous sommes de la Guinée. Et quand on dit un guinéen en créole, ça veut dire un génie de l'Afrique. Cet enracinement, conscient ou pas, si vous voulez, est quelque chose d'actif dans la compréhension du territoire, dans la compréhension du mental haïtien. Eh bien, ce vide aussi. De sorte que il y a, dans la longue durée, ce que j'ai envie d'appeler une incompétence spatiale de l'haïtien par rapport à son territoire insulaire. Nous sommes nés sur une île, mais nous sommes des faux-iliens. 80% des haïtiens ne savent pas nager. Les Haïtiens mangent en moyenne 3 kilos de poissons et de fruits de mer par an.
Pour vous donner un exemple, en Jamaïque, c'est 43 kilos par habitant et par an. En République dominicaine, c'est 15 kilos. Les Haïtiens, moi y compris, hein, vivent pratiquement le dos tourné à la mer. Alors que 75% de la population vit à moins de 200 mètres du littoral. En fouillant dans mes souvenirs de géographe, je me rends compte que la première fois que je suis allé à la mer prendre un bain, un petit peu au sud-est de ce point qui n'était pas encore le territoire bâti, mais c'était la mer, mon premier bain, la mer, je pense que j'avais 11 ans, à Port-au-Prince. Pourtant, je suis né ici, là, rue du Centre, à 200 mètres du littoral. Certains expliquent que par le traumatisme de la traversée, traumatisme transmis de génération en génération, parce que la mer, ce n'a jamais vraiment été pour nous une croisière, mais au contraire, si vous voulez, un arrachement, un dépaysement, un exil, et pour beaucoup, la mort, en fait. Et dans le vaudou haïtien, justement, les guinins, les lois associées à l'eau, sont souvent des lois, on va dire, ombrageuses. Et parce que précisément, à la mort, l'esprit des défunts se retrouve précisément sous la mer. Quand on veut invoquer un esprit défunt, généralement en Haïti, on cherche précisément à proximité de l'eau, qui est la métaphore de la mer. En fait, la mer, c'est le séjour des morts. Un élément durable aussi, si vous voulez, qui, en même temps que cette tabula rasa, devient prégnant dans les mentalités collectives, et c'est le contraire qui aurait été étonnant. Il faut comprendre aussi que dans le cadre du système colonial, il n'y a pas de place pour le marin parmi les esclaves. Vous mettez un marin sur un voilier, c'est comme le libérer. Il met les voiles, métaphoriquement parlant. Donc, il n'y avait pas d'économie bleue dans le cadre de la colonisation française, ni espagnole d'ailleurs, mais les esclaves ont tout de suite été attachés et retournés vers la terre. C'est dire par conséquent que il y a dans la tabula rasa, c'est-à-dire la disparition de la population d'origine et finalement ce génocide, pour appeler les choses par leur nom, par les Espagnols, d'accord, une compétence qui manque, qui fait que voilà une île dont l'économie est tout sauf maritime, dont la population n'a pas les compétences marines qui auraient pu transformer justement le territoire en un méritoire, c'est-à-dire un territoire maritime associé à ce territoire et qui est également source de richesse. Parce que pendant que les Haïtiens mangent peu de poissons, il y a des problèmes de malnutrition qui touchent plus du quart, plus de 30% de la population. Carence en protéines animales qui aurait pu être facilement comblée par davantage de recours aux richesses halieutiques. Cette colonisation, elle est double dans le cas de Haïti. Il y a d'abord une colonisation espagnole. Ce sont les Espagnols, Christophe Colomb travaille pour l'Espagne, d'accord, qui ont initié dans la colonie de la Española, telle qu'ils l'ont baptisée, cette première économie fondée sur l'esclavage des Africains, d'abord des Taïnos, et lorsque les Taïnos sont exécutés jusqu'au dernier, on fait appel donc à des esclaves venus de l'Afrique, mais ce n'est pas une idée qui tombe du ciel. On reproche souvent à Bartolomé de las Casas, qui entre dans l'histoire comme le défenseur des Taïnos et comme celui qui a proposé aux Espagnols d'avoir recours plutôt à des esclaves africains, mais ça faisait déjà plus de 3 siècles que l'Afrique était littéralement pompé de ses forces vives par l'océan Indien d'un côté, par la Méditerranée de l'autre. Donc, ce n'est pas une nouveauté. Et ce n'est pas une nouveauté non plus le développement de l'économie de plantation, de la canne à sucre en particulier, dans les îles, avec une main-d'œuvre servile noire, parce que c'était déjà le cas aux Canaries, c'était déjà le cas à Madère, c'était déjà le cas aux Açores. Et c'est précisément pour créer le pendant occidental de ces économies insulaires, des Essas Ilias, que l'on a créé les Antilias, c'est-à-dire les îles d'en face, comme s'il y avait un effet miroir de part et d'autre de l'Atlantique entre les économies insulaires de l'Atlantique orientale, du Cap-Vert jusqu'aux Canaries, d'accord, et d'autre part les Antilles, proprement dit, c'est-à-dire de Trinidad jusqu'à Cuba. Si vous étiez gentil, vous feriez à ma place la recherche d'une petite carte, parce que j'ai horreur de parler de pays, c'est pas très urgent. J'ai l'impression de parler de la Lune, alors que je suis géographe. C'est possible ?
Oui, bien sûr.
Mais il faut que je vous mette le dernier. Que je sois sur mon avion, du coup.
C'est ça, mieux.
Les Espagnols ont initié le mouvement, mais ce sont en fait les Français qui vont véritablement développer l'économie de plantation. Non pas parce que les Espagnols soient de mauvais agriculteurs, mais tout simplement parce que, au début du XVIIe siècle, à partir de 1609-1610, les Espagnols ont trouvé sur le continent américain, c'est-à-dire au Mexique d'un côté, très bien, au Mexique d'un côté et au Pérou de l'autre, des richesses, c'est-à-dire des sources d'enrichissement métallifère beaucoup plus importantes que dans les Antilles. Parce que le premier motif de la colonisation, de la conquête espagnole, ce n'est pas la recherche des épices, comme on dit, mais la recherche d'or précieux, de métaux précieux, d'or et d'argent, et précisément d'abord, quelques placères, c'est-à-dire des minerais trouvés dans les alluvions, dans les Antilles, ont à lécher les premiers Espagnols. Mais très vite, ils vont comprendre qu'il y a beaucoup plus à gagner sur le continent que dans les îles. De sorte que les Espagnols vont déserter Cuba, Porto Rico, la Jamaïque, la Hispaniola, Trinidad, c'est-à-dire toutes ces premières îles qui étaient d'abord objet de leur conquête, pour se déployer sur le continent où il y a beaucoup plus à gagner. Eh bien, cette avancée espagnole, ce front pionnier de la conquête qui se déplace vers le continent, laisse un vide à l'arrière. Et c'est dans ce vide que les puissances telles que la France, l'Angleterre, les Pays-Bas vont justement s'engouffrer pour tout simplement se substituer aux Espagnols et relancer l'économie coloniale que les Espagnols avaient initiée. Et c'est pour cela que tout le savoir colonial est directement issu de l'agriculture méditerranéenne, déjà pratiquée à la fin du XVe et au début du XVIe siècle par les Espagnols et les Portugais dans les îles de l'Atlantique. C'est cette filiation qui passe aux Français et qui, à partir maintenant de la colonisation française qui commence au début du XVIIe siècle, va connaître, on va dire, une systématisation par la maîtrise des mers qui permet de mettre en place le commerce triangulaire qui va de l'Europe à l'Amérique en passant par l'Afrique, le fameux commerce triangulaire, c'est-à-dire on part avec des pacotilles de l'alcool et des armes et des munitions que l'on vend aux souverains africains d'un côté, et on prend la cargaison de bois d'ébène pour aller la décharger dans le nord-est du Brésil, mais également dans les Antilles et jusque dans le sud des États-Unis. Donc, voilà le système qui se met en place et qui permet à la France de transformer Saint-Domingue en la colonie la plus riche de l'histoire. Avec, à l'apogée de cette occupation française, une population d'environ 500 000 habitants, c'est-à-dire en 1789, Saint-Domingue, c'est 500 000 habitants, dont 400 000 esclaves, et le reste se répartissant à égalité entre les Blancs et les Métis et les Noirs libres. C'est-à-dire un demi-million d'habitants produit des richesses équivalentes au quart de la recette de l'État français à l'apogée donc de sa puissance. Dans ce système, on peut dire que, là il faudra peut-être zoomer un petit peu pour vous montrer Haïti dans... dans le détail. Et vous montrez donc la région où tout a commencé, c'est-à-dire le nord d'Haïti, avec ici la ville du Cap-Haïtien, qui ne s'appelait pas encore le Cap-Haïtien, mais le Cap-Français, qui sera la première capitale vraiment de la colonie, une fois son développement. Mais la présence française, c'est d'abord l'île de la Tortue. Vous avez tous entendu parler de l'île au trésor de Louis Robert Stevenson. Mais c'est précisément là que ça se passe. Parce que les Français ne sont pas arrivés avec armes et bagages pour s'installer et tout de suite développer les plantations. Mais ils ont d'abord été des flibustiers et des boucaniers. C'est-à-dire des flibustiers, autrement dit des pirates, des boucaniers, autrement dit des chasseurs de cochons marrons qui vont braconner en fait sur les bétails volontairement lâchés par les Espagnols dans ces îles, parce que en fait à partir du moment où la colonisation se met véritablement en place sur le continent sud-américain, ça prend une toute autre dimension. Les Espagnols entendent vraiment transplanter l'ibérité dans le Nouveau Monde. C'est pour cela que autour de Quito, autour de Lima, autour de Mexico, vous voyez un patrimoine architectural, en particulier un immobilier religieux, impressionnant, fait pour enraciner justement l'hispanité dans ce Nouveau Monde. Ce que ne font ni les Français, ni les Anglais, par ailleurs. Parce que les enjeux ne sont pas les mêmes. Là, il s'agit de lutter contre de vieilles cultures ancestrales qu'il faut effacer et auxquelles il faut substituer justement une nouvelle culture, nouvelle religion, nouvelle langue. Et c'est dire donc que les Français commencent véritablement au plus bas de l'échelle dans l'aventure coloniale. Et c'est une sorte de victoire par défaut. C'est par manque d'intérêt et surtout par manque d'hommes et de troupes pour garder ces arrières que les Espagnols finissent par lâcher et par le traité de Ryswick reconnaissent donc la cession de la partie occidentale de l'île aux Français avec, bien entendu, comme point de départ, l'île de la Tortue. Et qui dit reconnaissance de l'installation française dit développement de l'économie sucrière qui se développe en particulier dans les plaines, la plaine du Nord, ici, précisément autour du Cap-Haïtien. On va dire, tout cet espace-là, délimité par une chaîne de montagnes du Sud, que l'on appelle les montagnes noires. Donc ici, on voit se développer une économie sucrière fondée sur la plantation systématique de la canne à sucre, tandis que les montagnes se couvrent de plantations de café qui s'adaptent à un écosystème beaucoup plus frais, et dans l'intervalle, beaucoup d'élevage, parce que l'on a besoin d'animaux de trait, d'animaux de bât, mais également d'animaux de bouche pour pouvoir satisfaire les besoins de l'économie. En fait, l'économie plantationnaire est une économie complexe. C'est une économie de type capitaliste, avec une main-d'œuvre, certes esclave, mais concentrée et soumise à des cadences de travail qui préfigurent la révolution industrielle du début du 19e siècle. Et d'ailleurs, au moment des grandes grèves qui agitent les usines anglaises au début du 19e siècle, très souvent, parmi les revendications des ouvriers, il y a le refus d'être traité en esclave. C'est vous dire que ce qui se passe dans le Nouveau Monde, les luttes des esclaves, ne laissent pas insensibles et ne sont surtout pas inconnues, on va dire, des luttes ouvrières qui ont lieu dans le reste du monde. Au contraire, le soulèvement d'Haïti leur donne espoir. On ne le sait pas assez. La plantation française typique, c'est la plantation sucrière, qui a une superficie moyenne de 300 hectares. Et il faut compter un esclave par hectare, à peu près. Et sur ces 300 hectares, généralement, les deux tiers sont mises en culture, dans une canne à sucre, généralement dans la plaine. C'est une culture irriguée. Et un tiers du territoire est constitué de ce qu'on appelle des bois debout, c'est-à-dire des réserves de forêt pour alimenter la plantation en bois de chauffe pour pouvoir faire tourner les usines. Parce que la plantation, ce n'est pas seulement une activité agricole, c'est une activité agro-industrielle, parce qu'une fois la canne coupée, il faut la mouliner, en tirer le sirop, ce qu'on appelle le vesou, et ce vesou doit être cuit. Donc, c'est la cristallisation du sucre de canne qui, après, va vous donner ce qu'on appelle des pains de sucre. Et généralement, la colonie exportait ces pains de sucre, c'est-à-dire de grosses formes, comme on a des pains de sel, par exemple, dans le Sahel. Et c'est ce sucre qui sera généralement raffiné en métropole. Raffiné où? Devinez. À Bordeaux, à Nantes, à La Rochelle. C'est-à-dire des points de départ, justement, des navires négriers. En Haïti, ça s'appelle avantage barbe et moustache. On vend de la camelote, on achète des nègres, on les revend, et on vient vendre du sucre, du café, du cacao, qui sont des produits de luxe de l'époque. C'est comme de la soie, c'est comme du pétrole aujourd'hui. Et c'est ça la richesse accumulée, justement, grâce au travail, au travail gratuit de ces esclaves, on va dire, de 1503, date de l'arrivée des premiers esclaves dans le territoire colonial, jusqu'à 1803, date de la fin de la guerre de l'indépendance, c'est-à-dire 300 ans de travail gratuit. J'insiste sur la gratuité de ce travail parce que vous allez voir l'incidence que cela a sur justement ce que nous allons évoquer après. Parallèlement à la colonisation, il faut évoquer, j'ai envie de dire, son double, c'est-à-dire le marronnage. Le marronnage a commencé dès l'arrivée du premier esclave en Amérique. Et le marronnage, ce n'est pas seulement un acte, on va dire, d'esservelé qui décide de rompre les ponts. Le marronnage est un acte philosophique profond. C'est la première déclaration, justement, du droit de l'homme à la liberté. C'est le refus de la... Et ça paraît simple, mais pas du tout. Le marronnage, c'est le signe que la démonisation, pour paraphraser, pour citer mon collègue philosophe haïtien Franklin Enoch, la démonisation, c'est ce qu'on, pour dire ça en français, c'est la zombification. C'est-à-dire, quand on enlève le cerveau, quand on vous enlève votre vitalité. Ça me rappelle la discussion que j'ai eue une fois avec un philosophe colombien qui me disait, un philosophe colombien qui vient de Barranquilla, donc caribéen comme moi, il me dit, nous autres caribéens, nous sommes le peuple de la joie. Moi je lui dis, de nos titites, encore une idée pour nous faire, pour nous bercer d'illusions.
Il dit non. Il était beaucoup plus sérieux que ça. Il dit, nous sommes le peuple de la joie, au sens que tous les pays qui ont connu l'esclavage, je dis bien tous les pays qui ont connu l'esclavage, se caractérisent par une musique, une littérature, une peinture, un humour qui véhicule systématiquement de la joie. La musique haïtienne, c'est impossible à écouter un jour de deuil.
Exactement.
Impossible à diffuser, si vous voulez, un jour de... Et pourtant,
à la fin,
et pourtant, précisément, à l'enterrement, au moment du deuil, c'est là que la musique est la plus joyeuse. Les Haïtiens, quand ils manifestent, quand ils prennent la rue, quand ils battent le béton, comme on dit, c'est toujours en chantant, en dansant. Je lui dis, et alors ? C'est preuve de quoi ? Je n'arrive pas à donner cette explication que je ne fais que partager avec vous. Là encore, ce n'est pas scellé dans le ciment, parce que ça me paraît pure poésie, mais on ne peut pas être bon géographe sans être un peu poète, parfois. Et la poésie me plaît, en l'occurrence, il me dit, après la traversée, qui durait plus d'un mois et demi, pratiquement 6 semaines de traversée, pour partir du golfe de Guinée pour arriver jusqu'en Amérique, aux Antilles, il dit, les plus faibles, les plus tristes, les moins résilients, ils sont tous morts. Seuls ont survécu ceux qui avaient en eux assez de musique, assez de foi, assez de courage pour continuer à survivre. Parce que l'expérience de la capture, de la traversée dans les navires négriers, je ne veux pas vous passer ici des images de violence, mais c'est ça qui marque notre iconographie collective partagée. C'est-à-dire des gens à se ligner comme des saucissons, comme des sardines dans les navires négriers et qui vont traverser monts et marées pendant des jours et des semaines jusqu'à la descente du bateau. Ben, à l'arrivée, vous avez des zombies ou des morts ou des gens définitivement traumatisés par l'expérience. Et il dit, il y a justement ceux qui survivent. Les survivants, ce sont ceux qui avaient en eux suffisamment de joie, de courage, pour continuer à danser, à faire de la poésie, à faire l'amour. Parce qu'une telle expérience vous enlève la bandaison de façon définitive dans une situation normale. Donc ceux qui continuent à bander, ceux qui ont encore de la joie, de la force en eux, il dit, nous sommes descendants de ces gens-là. Et c'est pour ça que le carnaval, ce n'est pas l'expression d'une joie irrationnelle, mais au contraire, signe que ce que l'esclavage aurait dû écraser comme au rouleau compresseur, justement, la joie nous l'a restitué au centuple. Je ne sais pas ce que ça vaut en termes heuristiques, si vous voulez, mais c'est une explication qui me plaît et qui me fait voir que, justement, le paradoxe d'un peuple gai, joyeux, ne peut pas s'expliquer autrement que par, justement, cet héritage plus ancien. Et en ce sens, Haïti est effectivement une nation africaine.
Exactement.
Une nation nègre, au sens que la négritude, c'est, pour paraphraser Césaire, c'est truer à la main. La négritude, ce n'est pas une couleur de peau. La négritude, ce n'est pas un hasard, on va dire, de la condition ethnique. La négritude, c'est le passage d'un état où vous n'êtes rien à une situation où vous prétendez précisément être tout. Et c'est ça, le marronnage. Il est important de rappeler qu'en Haïti, sur la place du Champ de Mars, la statue, le géosymbole, l'image représentative de notre nation haïtienne
Ce n'est ni une tour, ni un château, mais c'est la statue du marron inconnu, c'est-à-dire de cet esclave qui a rompu les chaînes et qui, avec son lambi et sa machette, s'écrit « Liberté ou la mort ». Ça, si ce n'est pas de la philosophie, je ne sais pas ce que c'est que la philosophie. Et c'est précisément cet esprit de marron qui va, dans un pas de temps moyen, nous avons fait un premier pas dans le temps, depuis l'époque des Taïnos jusqu'à nous. Nous faisons maintenant un deuxième saut conceptuel de la réalité du marronnage jusqu'à nous, encore pour dire que Haïti, c'est une nation de marron. D'abord, parce que c'est par le marronnage que ça commence, avec la grande figure de Macandal, d'abord. Macandal, dont on ne sait même pas ni où ni quand il est né, parce que c'est un esclave bossal, venu directement d'Afrique, et qui, en 1758, sera, à la suite d'une arrestation, Macandal est, on va dire, auréolé d'une réputation de hongan, d'empoisonneur, d'incitateur à la révolte des esclaves, avant lui-même de fuir de la plantation de la Cuve du Nord où il était attaché, pour devenir chef rebelle. Et l'un des modes de résistance des marrons, justement, c'était d'empoisonner les blancs. En empoisonnant les sources, bien entendu, mais également par le service de mets empoisonnés. Et c'était la hantise du colon que d'être empoisonné, parce que tous les colons avaient une cuisinière forcément noire, forcément africaine. Et d'ailleurs, c'est, voilà encore, si vous voulez, une rémanence de cet aspect-là des choses. On dit que lorsque la cuisinière en Haïti, elle est mal payée, y compris aujourd'hui à Port-au-Prince, tous les Haïtiens ont une cuisinière qui fait la cuisine à la maison. Lorsque la cuisinière est mal payée, elle a pour habitude de cracher dans la nourriture. Ce qui est un fantasme, bien entendu. Mais pourquoi pas, hein? Ça apporte des enzymes, d'ailleurs. Donc, une révolution. La nation haïtienne, c'est d'abord, on va dire, une nation de marrons. Cela commence par des soulèvements de marrons qui tiennent véritablement la dragée haute aux plantations. Les marrons se réfugient en particulier dans les montagnes, là où c'est difficile de les atteindre, et là où, justement, ils exercent une moindre pression sur la survie, on va dire, de l'économie de plantation. Et il ne faut pas non plus vous imaginer les marrons comme de simples clochards en train de parcourir les bois, non. Il y a des campements de marrons qui ont traversé l'histoire haïtienne jusqu'à l'indépendance, notamment la région du Grand Doko, dans la partie centrale du territoire, où il y avait une sorte de statut tacite d'indépendance. C'est pour ça que lorsque nous disons d'Haïti comme la première expérience de République noire, on va dire de République institutionnelle, mais ce n'est pas la première expérience d'exercice du pouvoir par des Africains issus de l'esclavage qui ont déjà organisé leur campement marron de façon à négocier avec les colons la liberté en échange du refus d'accepter de nouveaux fugitifs. C'est-à-dire, en fait, l'indépendance est déjà en marche à travers la survivance de cette communauté de marrons, et ce n'est pas une spécificité haïtienne. On trouve la même chose au Brésil avec les Quilombos, la même chose en Amérique du Sud, en Colombie, avec des communautés marrons qui se sont constituées et qui ont très vite mis en place, en fait, une économie solidaire. Et je pense que s'il y a quelque chose qui caractérise l'état d'esprit haïtien, et j'ose le dire, c'est justement ce que j'appellerais la conviction que la liberté est un bien universel. Les Haïtiens sont entrés dans l'histoire comme le seul peuple des Amériques à avoir envahi les voisins, non pas pour les soumettre, mais pour libérer les esclaves. Haïti a participé à cet égard à la lutte d'indépendance de le plus grand pays d'Amérique du Sud. C'est à Jacmel qu'est créé en 1805 le premier drapeau et qui est encore le drapeau du Venezuela, de la Colombie et de l'Équateur, avec le bleu et le rouge d'Haïti et le jaune qui rappelle l'Espagne. Lorsqu'en 1800, Toussaint Louverture entre à Santo Domingo, son premier décret, c'est la libération de tous les esclaves.
Vous écoutez Le Maquis, le podcast de l'Amicale des étudiants caribéens, africains et sympathisants, connu sous le nom de l'AMECAS. Nous sommes une association étudiante panafricaine affiliée à l'Université de Paris 1 Panthéon-Sorbonne. En parallèle, en tant que think tank, nous analysons les enjeux géopolitiques, économiques et socioculturels de l'Afrique subsaharienne et des mondes africains à travers la rédaction d'articles, l'organisation de conférences ou encore la production de podcasts. Si vous avez une sensibilité pour le panafricanisme, que vous portez un intérêt pour les questions d'économie, de politique, de sécurité, de genre, de culture, de société en Afrique subsaharienne et dans les mondes afrodescendants, que vous soyez étudiant, étudiante ou jeune professionnel, n'hésitez pas à rejoindre notre équipe. N'hésitez pas à lire nos articles, à regarder nos vidéos, à écouter nos podcasts, à tout simplement suivre notre actualité. Je vous souhaite une très bonne écoute.
C'est cet esprit qui, précisément, en août 1791, on se rapproche de Verrières, donne lieu au premier soulèvement général des esclaves. On va dire qu'en gros, du 14 août 1791 au mois de novembre 1791 de la même année, un soulèvement à l'initiative de Duty Bookman commence au Bois Caïman, dans le nord d'Haïti, et pendant cet intervalle de temps, va répandre un véritable déluge de feu dans la province du Nord, qui est à l'époque la plus riche de la colonie française de Saint-Domingue. On compte plus de 1000 colons tués, plus de 200 sucreries, c'est-à-dire plantations brûlées, 1500 cafétéries, c'est-à-dire des plantations de café dans les montagnes, également dévastées, et surtout 15 000 esclaves qui cassent les cordes, c'est-à-dire qui ont rompu les fers et qui sont lâchés dans la nature et qui sont surtout armés jusqu'aux dents. Dans ces conditions, l'armée coloniale entre bien entendu en bandition, comme on dirait en créole, pour aplatir cette révolte, et Bookman meurt le fusil à la main, au contraire de Macandal, qui lui sera torturé, brûlé vif, et sur son bûcher, il est tellement puissant, il arrive à faire péter ses chaînes et à s'enfuir en flammes. Il est rattrapé, ramené sur le bûcher, rebrûlé devant les esclaves assemblés par mesure d'édification, pour qu'ils voient comment ça se passe quand on s'oppose au pouvoir colonial. Et la légende a retenu que Macandal n'est pas mort, il s'est envolé comme un papillon, et il continue de survivre. Bookman, il meurt au fusil à la main, après une révolte qui a mis en branle, en fait, tout ce qui sera, par la suite, considéré comme le début de la guerre d'indépendance en Haïti. Et c'est le moment où l'on voit apparaître d'autres figures, telles que Jean-François Papillon, telles que Georges Biassou, qui sont deux authentiques Africains, deux marrons, qui vont prendre part à la cérémonie du Bois Caïman et qui vont avoir un rôle très important dans la révolte. Et c'est le moment aussi où on voit apparaître trois éléments importants, trois figures importantes de la révolution haïtienne. D'abord, Toussaint Louverture, qui lui est né dans la colonie, c'est-à-dire c'est un créole né à Saint-Domingue, mais esclave, vendu puis racheté. C'est le moment aussi où l'on voit apparaître Jean-Jacques Dessalines, lui également un esclave créole, né à la Grande Rivière du Nord et qui sera libéré, enfin qui rachètera sa liberté 30 ans plus tard. Et bien entendu, Henri Christophe, qui est la troisième grande figure, le futur roi Christophe. Mais disons que nous sommes en train de parler ici d'anciens esclaves, de gens qui sont partis de pratiquement rien et qui, de façon assez étonnante, vont tous mourir. C'est pas pour me faire peur que je dis ça, à mon âge.
Et l'envie encore.
Hein ?
L'envie encore.
Ah, c'est-à-dire, en fait, moi j'estime n'en pas avoir assez vécu, mais ces hommes, ça veut dire qu'à mon âge, Toussaint Louverture, Jean-Jacques Dessalines, Henri Christophe, non seulement ils étaient déjà morts, mais ils avaient déjà bouleversé le monde. Avant d'avoir atteint l'âge de 60 ans, Toussaint Louverture a vécu ce qu'on appelle les trois couronnes. Il a battu l'Espagne, il a battu la France, il a battu l'Angleterre, et il devient gouverneur général à vie, dominant la vie de la société pratiquement en continu de 1798 jusqu'à son arrestation en 1802. Là, nous pouvons dire que c'est un point de bascule important, parce que Toussaint Louverture, c'est le premier esclave qui devient, qui passe du statut, on va dire, justement, du démonisé, pour citer encore Franklin Knopp, c'est-à-dire quelqu'un de dans une totale aliénation, et qui, à l'âge symbolique de 33 ans, Christophe était chrétien, Toussaint était chrétien, c'est un catholique, c'est-à-dire à l'âge du Christ, en 1776, l'année de l'indépendance américaine, il obtient sa liberté de son maître pour service rendu. Je pense que c'est quelque chose qui a dû faire tilt dans sa tête. L'année de l'indépendance américaine, lui, il devient un homme libre et il s'installe comme planteur à son tour, gérant de propriété, prospère et... il a même été, à certains égards, gérant de la plantation où Jean-Jacques Dessalines va travailler comme cocher. C'est-à-dire, il fut un temps où, dans le même lieu, Toussaint était un noir libre, prospère et propriétaire d'esclaves, et Dessalines était esclave. Et c'est peut-être là, précisément, que se crée entre les deux un lien particulier qui fait que, lorsqu'en 1791, le soulèvement général se met en place, et que Christ, et que Toussaint décide de prendre la poudre d'escampette pour entrer dans la rébellion, Dessalines le suit. Mais au moment où il le suit, Dessalines est déjà un homme libre. C'est dire que ce ne fut pas un mauvais maître. Sinon, il se serait vengé. Le projet de Toussaint Louverture est en totale congruence avec, justement, l'indépendance américaine telle qu'elle se conclut, finalement, au traité de Paris en 1803. C'est-à-dire une nation libre et indépendante, prospère, capable non seulement de se libérer de la mère patrie, mais de nous proposer un partenariat stratégique pour dominer le reste du monde. Et lorsque Toussaint, dans sa fameuse lettre, on dit du premier des Noirs au premier des Blancs, propose à Bonaparte une alliance pour gérer de façon, fédérale finalement, c'est une proposition de fédéralisme que fait Toussaint Louverture à Bonaparte. Mais on peut dire que l'hubris aidant, c'est-à-dire cet excès d'orgueil, et pour ne pas le dire, le racisme aidant, parce que c'est une proposition qui vient d'un nègre, d'accord ? a coûté l'Amérique à la France. Mmh. On peut imaginer l'inverse, d'ailleurs.
Il le regrettera à Sainte-Hélène, Napoléon, en disant que la grosse erreur que cela a été de ne pas faire alliance avec Toussaint.
Parce que non seulement on aurait gardé Saint-Domingue, mais on aurait gardé la Louisiane, qui à l'époque va des bouches du Mississippi jusqu'au contrefort de montagnes rocheuses. L'Amérique n'a pas encore franchi le Mississippi en 1803, au moment où Napoléon vend la Louisiane aux Américains, c'est-à-dire au moment où la guerre semble définitivement perdue à Saint-Domingue. Et en fait, ce que propose Toussaint, c'est un rééquilibrage des forces à l'intérieur de l'Empire, sachant que Saint-Domingue, c'est un quart des richesses de l'État. C'est-à-dire c'est une politique de rééquilibrage qui place déjà Saint-Domingue dans la modernité. Il ne faut pas imaginer Toussaint Louverture comme une sorte de bocassa moderne qui est dans une situation de béni-oui-oui par rapport à la France. C'est pas bocassa, mais pas du tout. Je ne vais pas essayer de trouver des correspondants modernes à Toussaint. En tout cas, en Haïti, il n'y en a pas. Et lorsque, en juin 1802, Toussaint est donc trahi et qu'il est déporté au fort de Joux, il a cette phrase prophétique que tout Haïtien connaît et toute Haïtienne connaît par cœur. Répétez avec moi. Voilà, ça me donne la chair de poule. Si vous voulez, c'est comme un mantra pour les Haïtiens.
Répétez cette phrase.
Je la répète, bien sûr. En me renversant, on n'a abattu que le tronc de l'arbre de la liberté, mais il repoussera par les racines parce qu'elles sont profondes et nombreuses. C'est sur cette phrase que nous avons accroché, si vous voulez, l'idée de cette présentation pour dire justement les racines profondes et nombreuses, c'est nous.
C'est nous.
C'est nous, les racines de l'héritage louverturien. Et ceci, toute race, tout sexe, toute religion confondue. Et c'est là, justement, que on aboutira à la fin de cette conférence. Ça fait plus d'une heure que je parle, hein ?
Je suis en libre.
Le public a son mot à dire. À la fin, fatigué. Si vous avez besoin d'une pause, vous me faites signe. Parce qu'il ne s'agit pas non plus d'assommer le public, ni l'auditoire. Et je ne voudrais pas non plus vous voir vos aujourd'hui. L'arrestation de Toussaint Louverture n'aurait pas été possible sans, on va dire, l'accord tacite de ses lieutenants, c'est-à-dire de Christophe et de Dessalines. Je ne dirais pas qu'ils ont trahi, mais disons qu'ils ont cessé la lutte, comme la cause paraissait perdue après le débarquement de 1802. Je pourrais toujours revenir là-dessus, mais disons que l'élément de bascule dans la Révolution haïtienne, c'est lorsque, en février 1802, Bonaparte prend la décision de rétablir l'esclavage, que la guerre de l'indépendance, que d'abord la Convention avait aboli donc en 1794, qui était un acquis, huit ans après l'abolition de l'esclavage par la Convention, Napoléon rétablit l'esclavage, envoie une expédition à Saint-Domingue pour mater justement ce régime mis en place par Toussaint Louverture, et qui est en fait une déclaration d'indépendance, j'ai envie de dire, couverte par rapport à ce que feront par la suite Dessalines et Christophe. Donc, le refus de l'autonomie de Saint-Domingue réenclenche une guerre d'indépendance, mais une guerre qui n'est pas seulement une guerre pour l'autonomie, mais une guerre de rupture par rapport à la France, à partir du moment où la mission de l'expédition Leclerc de 1802 est non seulement de rétablir l'esclavage, mais aussi et surtout d'exterminer tous les Noirs libres de la colonie. L'idée, c'est véritablement de procéder à un nouveau génocide et de remplacer cette population par de nouveaux esclaves qui, n'ayant pas le souvenir de la poudre, seraient beaucoup plus faciles à soumettre. C'est vous dire que Haïti fait à l'époque face à un défi qui pourrait trouver son pendant aujourd'hui. C'est-à-dire la première puissance maritime de l'époque, en tout cas l'une des premières, face à un petit territoire qui se défend au nom de principe que cette même puissance défend chez elle. La révolution haïtienne, c'est une conséquence directe et indirecte, mais c'est aussi rétroactivement, si vous voulez, quelque chose nourri par ce qui se passe dans les colonies. Lorsque le 4 août 1789, les députés français déclarent l'abolition des droits féodaux et proclament donc la déclaration des droits de l'homme et du citoyen, que tous les hommes, là oublie les femmes, naissent libres et égaux, en France, pour la plupart des gens, c'est dodo titi, en fait. Ça ne va pas changer grand-chose. Mais là-bas, dans la colonie, ça fait tilt aux oreilles de tout le monde. Parce que l'esclave, en dépit de tout, il sait qu'il est un homme comme les autres. On n'a pas attendu la déclaration des droits de l'homme pour savoir qu'on était des humains, que nous avions des organes, que nous avions des sentiments, des enfants. D'accord ? Nous ne sommes pas nés d'un décret, mais au contraire, c'est le décret qui est venu reconnaître cette humanité. Et les Haïtiens ont tout simplement dit, cette reconnaissance, nous voulons qu'elle soit effective, qu'elle se transmette dans les textes et dans la vie au quotidien des habitants de cette population. Ce sont d'abord les mulâtres qui ont donné le ton, en demandant l'égalité avec les blancs dans la colonie, puisqu'il n'y a plus de différence entre les hommes. Et une fois que les mulâtres ont mis le feu aux poudres, pour faire la guerre, il fallait bien avoir de la chair à canon, après avoir utilisé du bois d'ébène pour faire tourner les plantations. Et les mulâtres, à l'époque, c'est-à-dire des gens qui ont une portion de leur patrimoine génétique hérité directement de l'Afrique et l'autre portion héritée, on va dire, de l'Europe, sont à l'époque propriétaires du tiers des esclaves et du quart des richesses de toute la colonie. C'est vous dire que la ligne de solidarité à l'époque, elle passe très clairement, si vous voulez, d'un côté, isolant d'un côté les blancs, au milieu les mulâtres, et de l'autre les noirs, c'est-à-dire en fait un apartheid avant le terme. Et c'est important d'insister là-dessus parce que, justement, dans une perspective brodélienne, ça aussi, ça fait partie des tares originelles, qui continuent de se transmettre dans la société haïtienne. En Haïti, il vaut mieux avoir une tête d'albinos que être noir, par exemple, ou passer plus facilement. C'est-à-dire, les nuances de couleur sont associées à des qualités intellectuelles, sociales, culturelles, qui font que africain, ça reste encore une insulte en Haïti. Tandis que blanc, ça tout de suite ça met des étoiles dans les yeux. Il y a un proverbe qui dit « Après mon Dieu, c'est blanc ». Je ne pense pas que j'ai besoin de traduire. Eh bien, c'est précisément tout ça que Vertière vient casser. Mais comme je vous le disais, Vertière, ce n'est pas une rupture définitive et c'est fini. Avec Vertière, en fait, la lutte ne fait que commencer. Et c'est peut-être là que se trouve, je dirais, le biais dans l'histoire d'Haïti. Je dis souvent à mes étudiants, lorsque nous commençons les cours en Haïti, on commence debout. dans les cours en tout cas, parce que je le dis souvent, on s'est peut-être assis trop vite après Vertière. On a cru que, à l'aise, nous chita, nous poser, comme on dit en créole. Alors qu'en fait, c'est là qu'il fallait se mettre debout. Et Césaire l'a très bien dit. Il dit Haïti, ce pays où la négritude s'est mise debout pour la première fois. Mais ce que Césaire ne sait pas, c'est qu'on s'est tout de suite assis. Et c'est pour ça, ne vous en déplaise, que moi je ne fais jamais cours ainsi. Par réflexe d'haïtien, il faut être toujours prêt à prendre la parole si jamais ça se passe mal. Ma mère disait, poussière campée, puis bon, passez poussière chita. Il vaut mieux attraper la poussière des chemins que attraper la suie d'une situation statique. Eh bien, justement, troisième partie de cette discussion, le défi à essayer. C'est quoi la nature du défi? C'est un défi multiple. Il est d'abord géographique. On verra à trois échelles. À l'échelle de la géopolitique globale, à l'échelle insulaire, mais aussi à l'échelle du territoire lui-même. À l'échelle géopolitique, tout d'abord, Haïti est entré dans l'histoire comme un principe de liberté. Au sens que tout le contact avec les voisins, ça a toujours été pour apporter la bonne nouvelle. Lorsque Bolivar est venu trouver le président Pétion pour demander de l'aide, il a obtenu des armes, des munitions, de l'argent pour aller continuer la guerre d'indépendance avec la promesse de libérer les esclaves dans les pays qui l'auraient libéré. Je rappelle, c'est à Jacmel que le drapeau de la Grande Colombie est cousu pour la première fois avec les couleurs d'Haïti, de part et d'autre du jaune, de l'hispanité, parce que ce sont des créoles espagnoles qui proclament leur indépendance. Eh bien, en 1826, une fois l'indépendance acquise des colonies de la Colombie, de l'Équateur, du Venezuela, mais également du Guatemala, du Mexique, et que toutes ces anciennes colonies réalisent en 1826, donc à Panama, le premier congrès des peuples libres du Nouveau Monde, devinez quoi ? Haïti n'est pas invité. Au motif qu'il n'y a pas de place pour des diplomates nègres dans un tel cénacle où il y a des Américains, des Brésiliens, des colons brésiliens, c'est-à-dire en fait, il n'y a que des Blancs. Les Haïtiens ne sont pas invités. Les Christophe et Dessalines, avant d'être des héros de l'indépendance haïtienne, ont participé à l'expédition française de Savannah, en Géorgie. C'est-à-dire, du sang haïtien a coulé sur la terre américaine pour la défense de l'indépendance de ce pays. Ce qui, normalement, est un gage d'amitié universelle entre les peuples. L'indépendance haïtienne ne sera pas reconnue avant l'abolition de l'esclavage aux États-Unis, c'est-à-dire avant 1865. À une échelle moyenne, Haïti, c'est aussi un pays coupé en deux par une frontière. Quand je vous dis que le savoir est un construit cognitif, eh bien, la meilleure définition que j'ai de mon sujet d'investigation, c'est un musicien qui me l'a donné. Un guitariste me dit un jour, et vous comme géographe, vous travaillez sur quoi exactement? Je dis, moi je travaille sur une île qui est coupée en deux par une frontière. Il me dit, en fait, tu travailles sur une frontière entourée d'eau. C'est ça. Une frontière entourée d'eau. C'est un paradoxe dans la géographie. Il n'y a pas beaucoup d'îles qui soient coupées en deux par une frontière. Vous en connaissez, vous ? Pardon ? Saint-Martin ? Allez, on fait un cours ensemble, là. Montrez-moi que vous êtes savants. Il n'y en a pas en Europe ? La Grande-Bretagne, très bien, même coupée en trois.
L'Irlande,
bien sûr. Qui n'est pas une île. La Corée, non, c'est une presqu'île.
La Chypre.
Pardon ? Chypre. Chypre Nord, Chypre Sud. La Papouasie-Nouvelle-Guinée. D'accord ? Bornéo. Et, bien entendu, Haïti, la République dominicaine. Il n'y en a pas beaucoup dans l'histoire. Et vous remarquerez que, systématiquement, les îles coupées par une frontière ont été l'objet d'une invasion. Cette frontière est toujours une frontière imposée de l'extérieur. Il y a peu de chances que sur un territoire aussi petit, on assiste à la phénoménologie, d'accord, de deux nations à l'intérieur d'un territoire aussi petit. Donc, on peut dire que ce qui paraît une évidence, en fait, est un paradoxe. Le paradoxe d'une île pour deux, d'une île coupée en deux, ce qui, d'un point de vue romantique, paraît une situation idéale. Imaginons des Mobutu vont ziler pour qu'on doit avec. Je parle très haut. C'est-à-dire, la métaphore de l'île pour deux, c'est romantique. Sauf que là, cette insularité partagée s'inscrit dans une dialectique qui hésite entre, d'un côté, ce que j'appellerais une schizophrénie spatiale, c'est-à-dire une île coupée en deux comme un schizophrène, avec tout ce que cela suppose, donc de déséquilibre, de contradiction dans la conscience, ou une situation, on va dire, de gémellité entre deux îles. Mais tout ce que l'on peut dire, c'est que les Haïtiens s'imaginent vivre sur une île et les Dominicains vivre sur une autre, sans jamais voir qu'en fait, les deux îles sont siamoises. Et je me rappelle que la première fois que j'ai montré cette carte à un cours à l'université, non pas de Port-au-Prince, mais dans une ville de province, je ne dirai pas laquelle, il ne faut pas me faire des copains là-bas. Les étudiants ont regardé la carte et m'ont dit, c'est quoi ça ? On a toujours vu la carte d'Haïti isolée de la République dominicaine. Ils me disent, c'est quoi ce morceau-là ? Mais ils disent, ben, c'est la République dominicaine. Ça, bon ? C'est collé à nous, comme ça, là ? C'est proche ? Je dis, ben, la République dominicaine est en continuité avec Haïti. Et pourtant, la plupart des Haïtiens sont habitués à voir la carte coupée de l'autre partie. Et les Dominicains, pareil. Et il y a une blague qui dit qu'un professeur a demandé un jour à ses élèves en République dominicaine de situer leur territoire. Ils ont dit que la République dominicaine est une île entourée d'eau et d'Haïtiens de tous les côtés. Avec l'idée que les Haïtiens sont une menace, bien sûr, pour leur identité. Justement, ça me permet de faire la transition avec ce pays qui a une superficie sensiblement supérieure à la nôtre. 48 000 km², c'est pas tout à fait deux fois Haïti, mais pas loin, et surtout une écologie radicalement différente. Autant Haïti, c'est en fait une grande chaîne de montagnes qui culmine ici à 2789 mètres, au pic La Selle, et le pic Macaya à près à 2100 également, la chaîne du Nord, la chaîne centrale. Haïti, c'est en gros trois grandes chaînes de montagnes qui se suivent du Nord au Sud. La République dominicaine, c'est la continuité de ces grandes chaînes, mais surtout, dans l'intervalle, le développement de territoires de plaine qui vont être véritablement le fer de lance de l'économie agricole de l'Union. C'est-à-dire, en gros, la surface agricole utile, l'espace disponible pour faire de l'agriculture de plantation est 3 à 4 fois plus important dans cette partie-là du territoire que dans la partie haïtienne. C'est une façon de dire que, géographiquement parlant, le potentiel dominicain est infiniment plus élevé. Et cela énerve parfois les Haïtiens de leur dire que ce territoire n'a jamais été nôtre, même si de 1822 à 1844, sous l'époque de Boyer, ce territoire sera occupé effectivement par les Haïtiens. Mais ce que l'on peut dire de façon générale, c'est que, dès la guerre de l'indépendance, il apparaît que la situation de gémellité insulaire pose un problème d'ordre géopolitique, au sens que si vous tenez cette partie du territoire et que l'autre vous échappe, toute puissance ennemie qui prend position dans ce territoire devient une menace pour l'indépendance haïtienne. Et lorsque, en 1803, à Vertières, qui se trouve sur la route du Cap Haïtien, l'armée française capitule, et que les Français cèdent donc l'ancienne colonie française de Saint-Domingue à Dessalines, ils se replient sur l'ancienne partie espagnole qui reste aux mains des Français jusqu'en 1809. C'est dire par conséquent que, même proclamé son indépendance, Haïti reste sous la menace des canons français qui sont installés à quelques encablures au-delà du massacre qui est le fleuve qui sert de frontière dans la partie nord du territoire. Et c'est pour cela que pendant toute cette période, les Haïtiens sont dans une intranquillité systémique d'une indépendance non reconnue, d'un ennemi installé aux frontières qui menace de reprendre du service à tout moment, et puis partout ailleurs dans la Caraïbe, des requins et des crocodiles. Ni l'Angleterre, ni l'Espagne, installés les uns à Jamaïque, les autres à Cuba ou à Porto Rico, ne sont des puissances bienveillantes pour l'indépendance haïtienne. Et c'est pour cela que, d'abord, Toussaint Louverture, en 1800, envahit cet ancien territoire pour l'associer à la défense de l'autonomie de Saint-Domingue. Et lorsque, en février 1802, les troupes de Leclerc viennent rétablir l'esclavage, c'est précisément par Saint-Domingue et par le détroit, par la baie de Samana, que les forces françaises viennent piller sur l'île. Parce que si elles étaient arrivées directement à Port-au-Prince ou au Cap-Haïtien, elles auraient été reçues par des esclaves en armes. Donc, géopolitiquement parlant, on va dire que le non-contrôle de la partie orientale du territoire constitue un ventre mou dans le dispositif de sécurité des Haïtiens, et à la limite, les Haïtiens de l'époque, s'ils en avaient eu le moyen, vous savez ce qu'ils auraient fait ? Ils auraient construit un mur par rapport à la mode d'aujourd'hui. Ouais. Mais comme il n'y avait pas moyen de construire un mur, eh bien, Dessalines, puis Pétion, Boyer, vont tout faire pour occuper cette partie du territoire, pour assurer l'indépendance d'Haïti. Et comme de l'autre côté, la population esclave est beaucoup moins importante que dans la partie occidentale, la propagande haïtienne de libération des esclaves, d'égalité et de partage, cette idéologie ne prend pas chez les Dominicains. Au contraire, les Haïtiens apparaissent comme des sauvages, comme des Africains, comme des vaudouisants, comme des sorciers. Bref, un racisme institutionnel se met déjà en place pour refuser justement alliance avec les Haïtiens. Et c'est pour ça que, entre 1822 et 1844, période pendant laquelle l'île est réunie sous la présidence de Boyer, qui a ses assises en Haïti, cette période est vécue par les Dominicains comme une période de honte. C'est comme chez vous, on va dire, l'occupation allemande, l'occupation nazie. Alors que les Haïtiens sont venus, non pas pour asservir, non pas pour exploiter, non pas pour piller, mais pour d'abord libérer les esclaves et proposer une économie de plantation qui va alimenter l'économie, on va dire, insulaire, engagée dans un processus de paiement de la dette de l'indépendance, exactement, à laquelle je vais faire allusion plus tard. Cette occupation haïtienne, de 1822 à 1844, de la partie orientale, est la première expérience, on va dire, d'une politique étrangère haïtienne fondée sur la puissance. À l'époque, Haïti fait peur. Haïti fait peur aux Espagnols, Haïti fait peur aux Français, fait peur aux Anglais, et la conquête de cette partie du territoire fait peur, fait craindre que Haïti n'ait des ambitions par rapport à la Jamaïque, par rapport à Cuba, par rapport à Porto Rico, qui sont des territoires voisins. Et c'est pour cela donc que, sur le plan géopolitique international, je ne veux pas dire qu'il y a un complot, parce que un complot pour un pays finalement si petit, je ne pense pas que ce soit tellement nécessaire. Mais disons qu'il y a un réflexe anti-haïtien qui se développe et qui gêne la reconnaissance du territoire. Et lorsqu'en 1825, le baron de Mako se présente dans la baie de Port-au-Prince.
Il est en vente, hein. Il est en vente en haut à 12 euros.
L'ouvrage auquel j'ai participé sur le paiement de la dette de l'indépendance d'Haïti à la France, le paradoxe du vainqueur qui verse une rançon au vaincu, d'accord, ne peut s'expliquer que par, je dirais, l'inversion des termes de la relation dialectique entre le vainqueur et le vaincu. Au sens que Haïti a gagné une guerre, Haïti a gagné une bataille, mais pas la guerre. La guerre continue. Ouais. Vertière, c'est un armistice, c'est un cessez-le-feu. Mais les Français rêvent de revenir en Haïti. Entre-temps, il y a eu la bataille de Waterloo, la raclée de l'armée napoléonienne, qui fait que lorsqu'en 1825, les Français proposent aux Haïtiens la signature de l'ordonnance de Charles X qui reconnaît officiellement l'indépendance d'Haïti, c'est la France qui est en position de demande, pas les Haïtiens. Les Haïtiens auraient pu s'accommoder justement d'un statut d'État marron pendant des siècles. Nous connaissons aujourd'hui un État que l'on peut considérer comme un État marron, c'est-à-dire libre de fait, mais non existant sur le papier. Lequel ? Une île comme nous d'ailleurs. Et qui prospère, qui caracole en tête des statistiques mondiales. L'un des pays les plus riches, premier producteur de semi-conducteurs au monde. Taïwan. Taïwan, c'est un État marron. Exactement au même titre qu'Haïti. Non reconnu officiellement, mais avec des activités économiques, diplomatiques, culturelles, avec tout le reste du monde. Un État marron. Et Taïwan s'en accommode très très bien. Boyer aurait pu dire, pas de besoin de reconnaissance française, puisqu'on commerce avec les États-Unis, avec l'Angleterre, le café, le sucre, le coton d'Haïti rapportent beaucoup à l'État et les caisses sont pleines. Alors, la question qu'on se pose, c'est pourquoi, bon Dieu, payer et même proposer à la France le paiement d'une indemnité pour une indépendance qu'on a déjà acquise ? Mais c'est là, justement, que le bât blesse, c'est que tant que cette indépendance n'était pas reconnue par la France, aucun autre pays n'allait reconnaître l'indépendance d'Haïti, pour des raisons diplomatiques. Et en 1815, le Congrès de Vienne reconnaît les droits historiques de la France à reconquérir son ancienne colonie. Donc Haïti reste avec une épée de Damoclès au-dessus de la tête, même s'il est peu probable que cette épée tombe dans l'immédiat. Mais justement, quand on est un homme d'État, on anticipe. On ne sait pas comment la relation peut évoluer dans le temps. La France était coq sans bec en 1825, mais le bec peut repousser. Les plumes, les griffes peuvent revenir au coq. Et dans ce cas, que fait Haïti par rapport à une adversité française, en sachant que Haïti se bat le dos au mur ? Haïti est la seule nation du Nouveau Monde à s'être défendue seule, le dos au mur. Avec de l'aide, monnayée, certes, mais il fallait payer rubis sur rouge pour pouvoir s'en sortir. Et c'est donc dans cette position d'inconfort, j'ai envie de dire existentielle, que les Haïtiens acceptent et saisissent l'occasion, justement, d'une reconnaissance officielle de leur indépendance par la France, en sachant que c'est une fenêtre historique qui peut très vite se refermer. Et c'est pour ça que lorsque l'on traite Boyer de traître, parce qu'il a accepté de capituler, parce que Mako vient avec une escadre et des armes, des munitions prêts à anéantir Port-au-Prince. C'est un ultimatum. pour dire aux Haïtiens, vous avez ceci à signer sans changer un seul mot, et c'est ça, ou alors on met pour au prince à feu et à sang. Mais quand on regarde le rapport manuscrit que Mako fait à son maître, le ministre de la Marine, au moment du retour à Paris, en fait, on se rend compte que nous ne sommes pas du tout dans une atmosphère de menace et de destruction, pas du tout dans une acrimonie entre des états-majors qui se montreraient les dents, mais au contraire, dans des débats feutrés, avec surtout une langue qui ne s'appelle pas encore de bois, mais en tout cas une langue diplomatique extrêmement obséquieuse pour qualifier les Haïtiens. On insiste sur la beauté de Boyer, qui est un métis, paraît-il, au très fin, qui lui donne un air d'abyssin. L'intelligence d'un Jinak. Bref, Mako ne tarit pas d'éloges sur le caractère civilisé des Haïtiens, qui sont presque aussi beaux, aussi cultivés que les Français. Donc, en gros, nous n'avons aucune raison de faire la guerre à ces gens-là. De sorte qu'au retour de Port-au-Prince, on a l'impression que c'est un retour de croisière dans la Caraïbe. Il n'y avait pas encore de Bermuda et de téléphone en bandoulière à l'époque, mais on sablait le champagne à bord. Avec l'acte d'indépendance signé par les Haïtiens, en fait, on a l'impression que ce sont les Français qui se sont libérés en 1825. Mais ce n'est pas qu'une impression, parce que diplomatiquement, la France se libère précisément d'un boulet qui est une colonie de marrons ouvertement rebelles qui refuse de reconnaître l'autorité de la France et qui fait surtout la nique aux Martiniquais, aux Guadeloupéens, aux Guyanais pour dire « nananer, nous on est libres, et vous C'était insupportable, psychologiquement, pour la France. Donc il valait mieux une indépendance africaine, légalement reconnue, avec l'apparence de la liberté concédée, d'accord, plutôt qu'une nation ouvertement rebelle. En ce sens, c'est une alliance des faibles. La France est trop faible pour reprendre politiquement, militairement, stratégiquement, tactiquement l'ancienne colonie, parce que ça aurait été la répétition de Vertières, on les aurait rebattus. Mais Haïti n'a pas non plus les moyens de se passer de cette reconnaissance officielle française, parce que, mettez-vous à la place des Haïtiens, seule et unique nation nègre du Nouveau Monde, non reconnue, cette reconnaissance apparaît aujourd'hui totalement anachronique, mais à l'époque, c'est un véritable sésame, c'est l'acmé de l'indépendance. Et les Haïtiens sont descendus dans les rues pour danser en juillet après la signature de cet acte, comme si c'était la nouvelle indépendance haïtienne. Et ça l'était! Nous ne pouvons pas, rétrospectivement, ignorer le soulagement collectif que représente pour les Haïtiens de l'époque, qui sont collectivement des marrons, et de voir les anciens maîtres les saluer comme des présidents, chefs d'État, ambassadeurs, sénateurs. C'est une revanche historique importante, une revanche symbolique qu'il serait mal inspiré de négliger l'importance et la portée dans l'histoire d'Haïti. Haïti aujourd'hui, c'est, on va dire, le point d'ordre de notre travail. Haïti se présente aujourd'hui comme un État triplement failli. Faillite économique, je l'ai déjà dit. Plus de 65% de la population vit avec moins de 2 euros par an. 38% de la population rurale qui n'a toujours pas accès à des latrines, avec tout ce que cela suppose, si vous voulez, de dégradation, de morbidité de la situation sanitaire. En Haïti, la mortalité infantile, c'est de l'ordre de 57 pour 1000, c'est-à-dire 5% des enfants naissent, meurent avant d'avoir atteint l'âge de 1 an. L'espérance de vie en Haïti, à la naissance, c'est 64 ans. C'est-à-dire, je suis statistiquement mort. Presque. c'est-à-dire les standards sanitaires, économiques et sociaux qui placent ce pays avec l'indice de développement humain le plus bas de l'ensemble de l'Amérique. Échec sur le plan institutionnel. En août 2021, le président Jovenel Moïse est assassiné chez lui, dans sa chambre, avec une garde prétorienne d'une plusieurs dizaines de soldats armés jusqu'aux dents, et pas un n'a levé le petit doigt pour lui porter secours. Faillite sur le plan politique, parce que le pouvoir actuel est dans une illégitimité, une illégalité patente. L'actuel Premier ministre est devenu Premier ministre non pas par, je dirais, le cheminement constitutionnel normal, mais par, on va dire, la volonté de la communauté internationale, ouais, qui a voulu faire l'épargne d'une transition politique en Haïti, mais les conditions dans lesquelles le président a été assassiné sont tellement troubles que même ses successeurs auraient des choses à nous dire sur les conditions de cet assassinat. Je ne veux accuser personne en l'absence de preuves, mais là encore, l'enquête, souvent en Haïti, l'enquête suit son cours. Là, ici, l'enquête est à l'arrêt.
Totalement.
Parce que tous les procureurs qui ont été désignés pour intervenir sur le cas ont gentiment jeté l'éponge en estimant que c'était un dossier brûlant. Politique encore, parce que la semaine dernière, le département d'État américain a publié une liste de citoyens haïtiens impliqués dans l'activité des gangsters, dans le trafic de drogue, et il se trouve sur la liste le nom de l'actuel président du Sénat et de l'ancien président de ce même Sénat. C'est dire donc que la gangrène a atteint le corps social, l'État, jusqu'à la racine. Et nous parlons justement des racines profondes et nombreuses. Parfois en Haïti, on a l'impression que les racines aussi sont atteintes. Parce que, qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que nous faisons aujourd'hui en Haïti l'expérience justement du trou noir, c'est-à-dire d'une destruction systémique du rêve collectif représenté par Haïti. Et la question est de savoir comment est-ce que ça arrive concrètement. Eh bien, Haïti, pour faire encore court, c'est le passage d'un système de plantation, un système plantationnel, on va dire, à un système plutocratique. C'est-à-dire un pays dans lequel un tout petit nombre, mais vraiment un tout petit nombre, concentre l'essentiel des richesses du territoire et considère le reste du territoire et le reste de la population comme ce qu'on appelle le pays en dehors. Yopamoun, là encore, Franklin Enoch a raison, on les a démonisés. Moun veut dire homme, personne, humain, au sens noble du terme. Et démoniser, c'est justement placer les autres dans une situation d'indignité qui fait que, en Haïti, je vous ai donné des statistiques assez catastrophique, mais lorsque j'étais jeune homme à Port-au-Prince, il y a déjà quelques décennies, 80% de la population ne savait ni lire ni écrire. Pour trouver quelqu'un qui savait lire à Port-au-Prince, il fallait se munir d'une loupe. Et c'était il y a à peine 40 ans. Et aujourd'hui encore, en Haïti, selon la couleur de la peau, selon la langue que vous utilisez, selon la religion et selon la façon dont vous êtes habillé, vous serez traité comme un âne ou comme un roi. C'est-à-dire, c'est le pays de l'apparence triomphante. Le pays du racisme, non pas institutionnel, mais d'un racisme intégré qui place systématiquement l'Africain, les valeurs liées à l'Afrique, à la négritude, au bas de l'échelle. Et la conséquence de cela, c'est sur le plan social, l'exclusion du plus grand nombre des services les plus élémentaires. Services d'éducation, services sanitaires. Aujourd'hui, pour trouver un médecin haïtien, il faut se rendre à Montréal. 80% des Haïtiens titulaires d'un diplôme supérieur ou égal à un master vivent et travaillent à l'étranger. Et lorsqu'il vous arrive un pépin à Port-au-Prince ou dans les campagnes en Haïti et que vous débouliez à la clinique locale, le plus souvent, le médecin, c'est un Cubain, venu faire ce service social en Haïti. Même nos médecins nous quittent. Haïti, c'est aujourd'hui un territoire avec plus de 600 000 armes de guerre en circulation, c'est-à-dire genre Gali ou Kalachnikov, alors qu'il n'y a ni conflit ethnique, ni guerre de religion, ni guerre civile en Haïti. Au mois de mai 2022, il y a eu plus de morts à Port-au-Prince qu'à Mariupol, pourtant dans un pays en guerre en Ukraine. Et tout ceci pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, Haïti est tombé sous la coupe des gangs, des gangsters. Et on peut, si vous êtes un petit peu cinéphile, imaginer que la façon dont le président a été abattu et exécuté dans son lit, sans que sa garde ne réagisse, relève, on va dire, de la signature mafieuse. Ce n'est pas un simple attentat, c'est l'arrestation, la torture d'un homme. Il y a eu des actes de méchanceté portés contre la personne sacrée d'un président de la République, quelle que soit l'opposition radicale que je puisse ressentir par rapport au régime de Jovenel. Et je reste un opposant par rapport à ce qu'il représente, d'accord ? C'est un traitement indigne d'un homme investi d'une fonction, même si cette fonction est parfois une fiction, mais ça reste sacré. À travers Jovenel, c'est le peuple haïtien qu'on assassine. C'est un symbole qui se trouve assassiné et nul ne peut se réjouir d'une telle issue, d'autant que ça ajoute à la confusion politique, parce que dans le fond, on se dit, mais qui a intérêt à un tel assassinat ? Ce n'est certainement pas une révolution populaire qui aboutit à cela, parce que les assassins sont tout simplement rentrés chez eux
tranquillement
après avoir commis leur forfait. Et à l'époque, on m'avait demandé mon avis pour expliquer cet assassinat. J'avais eu donc une réponse de géographe pour dire que la signature est mafieuse, le mode, c'est-à-dire la façon de procéder, c'est une affaire de brigands professionnels. Et des brigands professionnels en Haïti, pour commettre un tel acte, ne sont pas intéressés par les quelques cacahuètes que l'agriculture haïtienne ne produit plus. Ces 500 000 armes de guerre en circulation, ce n'est pas pour défendre les petits commerces de rue à Port-au-Prince. Je dis, comme géographe, moi je fais une double cartographie. D'abord, la cartographie de la violence dans l'ensemble du bassin de la Caraïbe. Et on se rend compte que dans des pays tels que le Mexique, le Guatemala, le Honduras, le Nicaragua, il en manque un, j'ai dit le Guatemala, la Colombie, nous avons le développement d'une violence, j'ai envie de dire, nihiliste de la part de jeunes gangsters qui sont souvent sous l'emprise de la drogue, souvent des mineurs armés jusqu'aux dents et qui ont des actes totalement irrationnels. Tu vois ? Et Haïti n'échappe pas à la règle. Mais quand on superpose cette carte à une autre, c'est celle du trafic de la drogue. On se rend compte que ce chemin de la violence emprunte tout simplement le chemin du trafic de la drogue. C'est des Andes à la Floride, en passant soit par l'arc antillais, soit par l'isthme centra-américain. Donc j'avais émis l'hypothèse que cette violence ne pouvait s'expliquer que par le fait que Haïti est devenu une véritable passoire pour la drogue de l'Amérique du Sud. On considère que plus de 27% de la cocaïne qui entre aux États-Unis passe par Haïti. Et comment est-ce qu'elle passe? Elle passe par les voies les plus institutionnelles, avec les présidents du Sénat successivement impliqués dans ce trafic, et ça ne date pas d'hier. Par conséquent, c'est un trou noir construit. Ce n'est pas comme si les Haïtiens étaient frappés d'une tare historique qui ferait que nous, les nègres, on ne serait pas capables justement de rester debout. C'est qu'on nous a mis à genoux. Et lorsque vous avez affaire à ce que le géographe Brunet appelle l'antimonde, c'est-à-dire à des gangsters qui sont véritablement motivés par la part du gain, mais seulement par la part du gain, justement, les principes de liberté, d'égalité et de fraternité sont mis à mal. Haïti, c'est la ligne de front, justement, d'un pays prophétique qui reste collé comme une tique à cet idéal révolutionnaire, mais qui, dans le même temps, se bat seul pour la défense de ses principes. Et dans cette solitude haïtienne, 200 ans de solitude, nous sommes confrontés justement à cet anti-monde, activité de mafieux qui ont besoin que l'État soit faible pour faire leur forfait. La faiblesse haïtienne, c'est une faiblesse opportuniste, c'est une faiblesse construite, c'est une déconstruction en fait de l'État. Et cela n'est possible que lorsque précisément vous êtes dans une ploutocratie, c'est-à-dire un régime politique à l'usage d'un petit nombre de riches qui accaparent et qui réservent toutes les richesses à leur strict usage personnel. Ici, vous appelez ça le libéralisme. Ailleurs, on appelle ça capitalisme. En Haïti, ça s'appelle exclusion systémique de tous ceux qui ne sont pas, par la couleur, par l'origine, par le nom, héritiers directs, en fait, du système de l'esclavage. Haïti et nous, c'est dire que le combat d'Haïti n'est pas fini. Nous sommes encore aujourd'hui confrontés à la réalité de l'exclusion au motif de la couleur, y compris en Haïti, la patrie, la première république noire. La question du genre en Haïti reste, je dirais, l'impensé de la révolution, alors que les femmes ont joué un rôle décisif. Pas seulement comme infirmière ou comme
formation
fossoyeuse dans le cas du défilé de la folle qui a recueilli les restes des salines pour les enterrer alors qu'il était abandonné comme un chien sur la chaussée, mais tout simplement parce que, et là on fait un petit peu de métaphysique, l'un des éléments fondamentaux de l'identité haïtienne, c'est le vaudou. Au sens que la révolution a commencé par une cérémonie importante, mais c'est aussi parce que le vaudou, c'est la véritable religion de tous les Haïtiens, au sens que c'est une religion créole. Véritable syncrétisme avec des éléments empruntés aux deux traditions, africaine et européenne. Et moi, j'ai assisté une fois à une cérémonie vaudou qu'on appelle la cérémonie Djo, qui est particulière, où pendant des heures, en fait, on récite une litanie biblique avec référence à Marie, à Saint-Jérôme, à Saint-Genou, à Saint-Bouton, à Saint-Dindin, à Saint-Turon, à tous les saints possibles et imaginables. En fait, la religion vaudou, c'est un panthéisme qui attrape des éléments de tradition indienne, précolombienne, taïno, il y a des divinités, notamment Simbi. Et Erzuli, on se demande si ce n'est pas aussi une survivance des portes taïno, des divinités chrétiennes. Tous les saints chrétiens ont leur correspondant dans le panthéon vaudou. Et des divinités originales haïtiennes, telles que Dessalines, par exemple. Dessalines est un roi dans le panthéon vaudou. Un des rares hommes d'État qui soit véritablement entré dans un panthéon encore vivant. Et Dernier élément, enfin, cette réalité haïtienne, c'est l'actualité du vaudou, c'est l'actualité de la lutte des femmes dans les sociétés occidentales. Comme haïtien, je me suis toujours senti un peu décalé par rapport à la lutte des femmes. Non pas que je sois un machiste, mais parce qu'en Haïti, il y a des décennies que nous avons fait, si vous voulez, le chemin de la libération de la femme. D'abord, par le vaudou, précisément. Que je sache, c'est la seule religion au monde où les femmes sont à égalité totale avec les hommes dans l'exercice du sacerdoce. La mambo, c'est-à-dire la prêtresse vaudou, est aussi puissante que le houdou. Et dans le service vaudou, il n'y a absolument pas de hiérarchie entre les hommes. Dernier élément de la modernité de la religion vaudou, le vaudou est certainement la seule religion au monde où l'homosexualité est considérée comme une vertu. Tous les cœurs des cérémonies vaudou sont animés par des homosexuels de l'un ou l'autre genre. La société haïtienne est probablement la plus ouverte sur la question, justement, de la liberté sexuelle, la liberté de genre, de l'égalité. Ce n'est pas une égalité sur le papier, c'est une réalité concrète de l'égalitarisme haïtien. Et lorsque nous disons qu'aujourd'hui, Haïti nous parle, ça veut dire que les luttes les plus modernes de notre société contemporaine, elles ont commencé ici, précisément. Les circonstances de la géopolitique internationale font que Haïti est aujourd'hui un pays failli. Ça veut dire que ses principes fondateurs sont aujourd'hui en danger dans le berceau, précisément, de la liberté universelle. C'est comme ça qu'il faut considérer Haïti.
Merci d'avoir écouté le Maquis, le podcast de l'Amicale des étudiants caribéens, africains et sympathisants, l'AMECAS, affiliée à l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Pour continuer la conversation, vous pouvez nous retrouver sur tous nos réseaux sociaux et via le hashtag #LeMaquis.